Cinéphile d'un autre temps revient pour la deuxième partie de notre triptyque sur Jean-François Camus, cinéphile à la vie et aux métiers multiples. Dans cet épisode, Jean-François nous raconte ses lieux de cinéphilie, certains en voie de disparition comme le MJC, autrement appelé Maison des Jeunes et de la Culture, certaines salles de cinéma de quartier, et il établit un petit tour de France des salles de cinéma. Sa cinéphilie lui a aussi beaucoup fait arpenter les salles des festivals, allant du Festival d'Annecy au Festival de Douarnenez, en passant par celui du film de femmes de Créteil. Attaché aux salles obscures et se refusant catégoriquement aux DVD, Blu-ray et autres plateformes de streaming sur Internet, il évoque pour nous des lieux hors du temps, parfois disparus, dans tous les cas transformés, qui ont eu pour seul objectif de faire vivre des films.
J'ai créé un ciné-club au service militaire.
C'est vrai?
Oui, non, j'ai eu comme ça. De toute manière, le cinéma était toujours présent. J'ai fait des séances de cinéma dans l'école l'année. Pour répondre à la question tout à l'heure, là, ça devait être la classe suivante, celle où j'ai passé mon CAP. Ça devait être ce qu'on appelait un cours élémentaire deuxième année. Donc en CE2, j'avais accès à un appareil de projection 16 et j'ai pu projeter des petits dessins animés, puis ce qui entraînait vers une activité de dessin après. Oui, c'est-à-dire que le cinéma, chaque fois que il y avait. Je manquais pas d'à-propos par rapport à ça. Quand j'étais dans un groupe, dans une activité, je saisissais, non pas en forçant les choses, mais je saisissais ce qui pouvait être une illustration cinématographique. Donc, l'armée, c'est vrai que c'était une situation un peu confortable. C'était dans la grande région parisienne, avec tous des gens qui étaient des sursitaires, donc des gens qui avaient fait un bout d'études, ou alors des gens comme moi. Moi, on ne peut pas parler d'études universitaires, mais j'avais eu une petite formation à l'école normale. Donc, c'était les co-militaires, là, étaient des gens qui avaient une curiosité possible du côté d'une programmation cinéma. Donc, on a obtenu de l'autorité militaire de faire vivre un ciné-club pendant le temps où on était. Ça a dû être pendant la première année, pendant ce qu'on appelait les classes.
Qu'est-ce que vous passiez comme film alors, des souvenirs
si je me souviens de films d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7, par exemple. Oui, très très beau film.
Tu étais une archive au cinéma, laquelle serais-tu?
Mais si je...
Enfin, si tu devais choisir une archive.
Une archive? J'ai écrit l'archive française du film du CNC.
Eh bien, très bien. Tu serais donc une institution d'archivage du cinéma?
Plutôt le service public, oui.
D'accord.
Plutôt le service public. Même si moi, je suis un petit peu une archive aussi. Si quelqu'un me pose une question, je peux essayer de retrouver dans l'ensemble de mes archives. Je l'ai beaucoup fait, d'ailleurs. Dans le cadre de mon travail, j'ai beaucoup utilisé mes archives personnelles pour faire des photocopies à une époque où il n'y avait pas de moyens Internet. J'ai beaucoup constitué des fiches à partir de textes qui se trouvaient dans les revues, dans les livres qui sont en ma possession. Mais sinon, aujourd'hui, le travail que j'admire du côté de la conservation des films et de la conservation de documents, il est effectivement du côté des archives françaises du film au CNC. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de par le monde d'autres archives plus performantes, mais là, ma connaissance est limitée. C'est vrai que dans la conservation des films, j'ai pu admirer ce qui se faisait à la Cinémathèque de Bruxelles, à la Cinémathèque de Suisse, à Lausanne, la Cinémathèque de Munich, la Cinémathèque de Toulouse. Donc, quelque part, je conserve une estime à ces lieux d'archivage, mais celle dont je suis le plus proche géographiquement, mais aussi le plus proche pour avoir travaillé avec eux, et bon, pour rester un petit moment dans l'espace français, le travail qui se fait aujourd'hui de conservation de la mémoire du cinéma français exceptionnel, c'est aux Archives françaises du film. Et je souhaite que ça va se poursuivre. Les Archives françaises du film font un travail sur tout ce qui est sur pellicule, et en essayant de conserver le maximum de choses sans se poser la question du genre, de la date, de l'origine. Et la notion de service public, je pense, là, est précieux. Comme dans les transports, dans l'électricité, dans les postes et dans le cinéma. Et là aussi, je redis, pourvu que ça dure.
Nous avons demandé à Jean-François les salles qui l'avaient marqué d'une manière ou d'une autre dans sa vie de cinéphile. Et pour notre plus grand plaisir, il a effectué un petit tour de France des salles de cinéma, entre salles historiques sauvées de justesse de la destruction, salles désormais disparues, salles cultes, ou encore salles de quartier, indispensables et tant oubliées. Pour nous, cela a résonné avec une certaine actualité qui est pour nous le cinéma La Clé, dernière salle associative de Paris en passe d'être détruite pour des intérêts privés.
Donc, si toi, tu étais, enfin, oui, si tu devais choisir une salle.
Bah, malheureusement, parce que ça, du coup, la question était posée et j'y ai un peu pensé.
Oui.
Et j'ai à citer en premier des salles de cinéma qui n'existent plus. Je peux le faire ?
Oh, bah oui, tout à fait.
Ben, la salle de cinéma où j'ai découvert le ciné-club en 1960, le cinéma L'Horloge à Saint-Maur, et aujourd'hui il y a des immeubles plutôt de luxueux à la place, en face la gare du RER de Saint-Maur, du parc Saint-Maur. Mais voilà, c'est...
Est-ce que tu te souviens de comment elle était, cette salle ?
Bon, je ne sais pas si à vous ça peut vous parler, si je vous dis une salle classique de quartier. Quoi,
si, salle, si. Oui. Oui, ça, c'est une salle assez petite oui, et vraiment ancrée.
Dans son quartier, dans son quartier, oui, oui, c'est ça. Une salle, qu'est-ce que.
Des fauteuils rouges.
Oui, c'est, sans doute, oui, ça, je ne me souviens même plus. Mais est-ce que c'était des sièges qui claquaient quand ils relevaient ? C'est possible. Mais là, je mélange avec d'autres lieux que j'ai pu retrouver. Il y avait les salles qui étaient moins chères avec le bois et qui claquaient, les plus confortables en velours. Mais pas là, je n'ai pas ce souvenir là. Mais je n'étais pas très attentif à ça. Hein. Je découvrais le cinéma, je découvrais les gens, je découvrais la fonction du ciné-club. Donc, une salle à l'ancienne, dans un quartier, et pas loin, il y avait une autre salle qui, elle, existe toujours, qui devait s'appeler à l'époque Le Théâtre, parce que c'était un ancien théâtre, et un bel ancien théâtre à l'ancienne, qui aujourd'hui s'appelle le Lido, à Saint-Maur, qui existe toujours. Et à l'époque, il y avait le ciné-club adulte, qui se déroulait dans cette salle, tandis que nous, on avait le ciné-club de jeunes qui se déroulait à L'Horloge. Et ils n'étaient pas très, très loin l'un de l'autre, les deux salles de cinéma. Et pour revenir à Eisenstein, qu'on citait tout à l'heure, je me souviens d'une séance commune, ciné-club de jeunes, ciné-club adulte, qui s'est passée dans la salle du ciné-club adulte pour dire que les choses se passaient bien. On avait découvert, nous, le film « Ivan le Terrible » de Eisenstein. Et ça, c'est vrai que quand on découvre à 19-20 ans un film comme ça, ça se coupe. Surtout quand on le découvre à côté de gens ou d'une personne qu'on aime. Il y a quelque chose comme ça aussi qui fonctionne. Et Puis je pense qu'on avait dû voir les deux parties, ce qui à l'époque aussi était un peu rare de se lancer dans le cinéma pour quelque chose qui dépassait les deux heures. Bon, on comprenait évidemment pas tout, mais il y avait un sens de l'image, du son, de la grandiloquence qui était impressionnant. Je peux citer une deuxième salle ?
Oui.
Une deuxième salle qui est fermée aussi. Mais c'est un tout petit poil polémique parce que, pour moi, parce que cette salle-là, elle est à Créteil. Et je pense que si elle existait aujourd'hui, elle aurait du sens à exister aujourd'hui. Alors que pendant de nombreuses années, on a oublié que c'était précieux, ces salles de proximité. Alors qu'il y a bien des endroits, dans des villages, dans des quartiers, où on redécouvre qu'une salle de proximité peut avoir une raison sociologique, une raison de vivre. Donc c'est à Créteil, une salle qui s'appelait le Gemini, où j'ai vécu avec la section cinéma de la Maison de la Culture de Créteil toute une série de semaines très 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 fortes. Puisque dans votre questionnaire, vous me demandiez un peu des souvenirs comme ça de séances particulières. Je pourrais me souvenir que, par exemple, dans cette salle a été programmé Family Life de Ken Loach et que c'est un film pour lequel il y a eu des queues dehors pour aller découvrir ce film de Family Life. Bon, c'est un détail par rapport à la salle de cinéma qui était une salle qui, en dehors de ses programmations d'arrêt et essai, organisé par la Maison de la Culture, était une salle qui vivait une programmation, une programmation publique tout autre de films à grand spectacle, mais il y avait ces séances d'arrêt essai. Donc ça aussi, c'était une salle de quartier qui n'avait pas une caractéristique majeure, sinon qu'elle était formidablement inscrite dans un quartier qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux Créteil. Donc cette salle de cinéma, le Gemini, elle a un passé de salle de quartier, elle a un passé de fonction culturelle, et aujourd'hui, je regrette que je ne peux pas dire les maires successifs, parce que c'est toujours le même maire de l'époque, c'est-à-dire depuis qu'elle s'est fermée dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, celui qui était un jeune maire à l'époque n'a pas senti qu'il y avait un avenir dans cette salle, ce que peut-être aujourd'hui il sait, je ne sais pas, si quelqu'un lui rappelle que si la mairie avait acheté cette salle à l'époque, aujourd'hui elle aurait de vraies raisons d'être dans ce quartier qui cherche à conserver son identité par rapport au nouveau Créteil. Alors nouveau Créteil où il y a les salles de cinéma où je vais beaucoup, qui sont les cinémas du Palais, qui sont tout près d'ici, il y a trois écrans consacrés à l'art essai. Et puis dans un autre quartier très, très, très singulier de Créteil, qui s'appelle le Montmélie, il y a une toute petite salle de cinéma dans une MJC qui s'appelle la Lucarne, qui continue à exister aussi. Donc voilà, je suis content d'avoir cité ces trois noms de salles. Et puis si je peux me permettre, un autre lieu qui n'existe plus aujourd'hui, qui est la Maison Lumière. Avant que n'existe l'Institut Lumière, d'accord, il y avait des projections dans le lieu, justement à l'initiative de Bernard Charder, qui a réussi à faire vivre cette Maison Lumière, qui l'a protégée, puisqu'il y avait deux Maisons Lumière l'une à côté de l'autre. Il y en a une qui a été détruite pour en faire un immeuble, entre guillemets, dit moderne. Et puis, il y avait la maison du père Lumière et puis la maison des deux frères Lumière qui a été conservée. Et dans ce lieu, il y a eu des projections. Et Bernard Charder y a créé ensuite le Centre national de la photographie. Donc, à côté de ce travail de la photographie, il organisait des moments du côté du cinéma. Et tout ça a précédé la construction d'une belle salle dans ce qu'on appelle l'ancien hangar des usines Lumière. Parce que les usines Lumière ont été détruites. Il y a un endroit qui a été préservé parce que des gens, c'est juste s'ils ne sont pas couchés devant les machines qui allaient détruire, qui ont conservé ce qui s'appelle le hangar des usines Lumière. Et à l'intérieur de ça a été construite une salle de cinéma où se déroule en particulier le Festival Lumière qui vient de s'ouvrir aujourd'hui et qui est une salle très confortable où il s'y fait des programmations exceptionnelles. Et
donc, elle existe toujours.
Ah ben elle est plus que jamais, parce que là, c'est le cœur du festival en ce moment, puisque elle ne suffirait pas à faire vivre ce festival qui se déroule à la fois dans des très grands espaces où il se déroule plutôt des foires, et où l'inauguration se passe devant des milliers de spectateurs. C'est évidemment inimaginable à l'époque où moi j'allais voir des programmations dans ce lieu-là, avant l'Institut Lumière. Et puis toutes les salles de cinéma qui sont très nombreuses, qu'elles soient d'arrêt d'essai ou qu'elles soient multiplex, participent de ce festival. Là, ça, c'est un lieu de cinéphilie florissante, parce que on y fait venir Coppola, bon, qui n'est pas moi quelqu'un pour lequel je me précipiterais, mais ça n'est pas une critique ni de l'homme ni de son cinéma, non. Bon, voilà, il y a des choix, mais c'est aussi un lieu où sont programmés des films dont des restaurations récentes ont été faites. Donc c'est un endroit, c'est un temps où on peut revoir, y compris des rétrospectives de réalisateurs. Bon, sinon, dans mon actualité, c'est le palais, les cinémas du Palais à Créteil, et puis c'est beaucoup le Reflet Médicis, rue Champollion, dans toutes les salles d'arrêt d'essai que je peux fréquenter à Paris. C'est quand même celle où je suis le plus souvent. Bon, mais je vais aussi au Majestic Bastille, qui est plus simple là, avec la ligne de métro. Je vais à l'Arlequin. Il reste que la salle de Paris, c'est la grande salle de la Cinémathèque française.
C'est l'Henri Langlois.
La salle Henri Langlois, oui. Ça, en plus, c'est pas très très loin d'ici, de Créteil. Et puis, mais il y a presque trop de choses à y voir, quoi. Les bras m'en tombent, quoi. Je pourrais presque y être tous les jours. Je sais bien. D'ailleurs, c'est très curieux de voir quand on y retourne, de voir quelques têtes qu'on voit à chaque fois. Oui. Non. J'ai aussi quelques salles comme ça quand je me déplace en province, hein, que j'aime retrouver. Quand je vais dans la presqu'île de Guérande une ou deux fois par an, j'ai à proximité mes salles. Il y a l'Atlantique au Pouliguen et le Pax à la Turballe, donc qui sont des salles qui appartiennent à un circuit d'arrêt essai de la région où il y a des films de qualité. Bon, à Lyon, quand je vais à Lyon, c'est le Comédia, où je vais très, très volontiers, qui est une salle d'arrêt-essai qui s'est agrandie, qui a 7 écrans maintenant. C'est la première des choses que je fais quand j'arrive à Lyon, je regarde ce qui est programmé. Dans la banlieue parisienne, je vais volontiers au Méliès, à Montreuil.
C'est très beau.
Il n'y a pas d'autre exemple pour moi. Dans la région parisienne. En plus, on paye 4 euros.
C'est ça, c'est la plus grande salle RSA municipale.
Oui, on paye 4 euros. N'importe quel jour de la semaine, on y va. On ne nous demande pas d'être de Montreuil, on paye 4 euros. Mmh. Bon, dans le département ici, il y a une salle qui n'a pas la même capacité, qui a 2 écrans, qui est à Ivry aussi, le Luxy, qui fait une belle programmation. Je regarde toutes les semaines ce qui s'y programme. Voilà. On arrête sur les salles de cinéma.
Après ce petit tour de France des salles de cinéma, Jean-François revient sur ses racines géographiques et cinématographiques ancrées dans la ville de Créteil. Il y a accompagné la Maison des Jeunes et de la Culture pendant un moment faste où le cinéma a fait rayonner la ville.
Tournesse, le moment éclatant cinématographiquement, ça n'a duré que 4 ans parce qu'on a été tous à un moment remerciés. Moi, j'avais mon statut de fonctionnaires, donc il n'y a pas eu de licenciement, mais tous les animateurs ont été licenciés. C'est l'époque de la section cinéma de la Maison de la Culture de Créteil. Et on a vécu là, il y a eu une préanimation de cet établissement qui a un très, très grand bâtiment. On a eu une période de préanimation où on a pu faire des choses assez formidables dans une salle de cinéma à Créteil, mais pas qu'à Créteil. Dans, j'ai aussi là participé à la constitution de plusieurs ciné-clubs dans, dans les MJC de Créteil. J'ai participé à des séances de cinéma pour enfants. Et, alors, et surtout, ça, c'était, comment dire, généré par cette section cinéma qui avait l'ambition d'être un lieu de mémoire de cinéma et d'être un lieu de découverte du cinéma contemporain. Et il y a eu plusieurs livres qui ont été édités justement par Jean-Pierre Jeancola et par le responsable de la section cinéma, Olivier Barraud, sur l'histoire du cinéma français, et pas seulement. Il y en a eu aussi un sur, par exemple, Harold Lloyd, il y en a eu un sur André Vaïda, mais il y a eu aussi des travaux qui étaient assez, assez inédits à l'époque, des choses que ne faisait pas la Cinémathèque française, du côté du cinéma français des années 30, cinéma français des années 40. Il y a eu ce qu'on a appelé des sinécures qui avaient lieu tous les ans. Il y a eu des cartes blanches à la Cinémathèque suisse, aux archives de Française du film, à la Cinémathèque de Toulouse, en présence des responsables. C'est-à-dire un travail très ambitieux sur l'histoire du cinéma. Et dans le même temps, il y avait une programmation qui pouvait être une programmation thématique, genre Alain Resnais, genre Chris Marker, des choses comme ça. Et puis, sur le cinéma contemporain à découvrir aujourd'hui. Il y avait y compris Gérard Lefebvre qui travaillait en permanence sur cinéma et enfants, et moi qui travaillais plutôt avec les associations, les ciné-clubs, les salles d'art et d'essai, même si j'apportais un coup de main, évidemment, à ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Mais on a été 5 à travailler en permanence sur le cinéma dans un établissement culturel. 5. C'est une période faste qui a été interrompue à un moment pour des raisons dites financières, mais qui, bon, maintenant, rétrospectivement, on voit bien que c'est des choix de société aussi, ça. Ça ne demandait qu'à être développé. Et bon, aujourd'hui, ce n'est pas dans l'air du temps. Si une entreprise privée veut faire des choses comme ça, elle trouvera la place pour le faire, mais que l'on le fasse avec le souci du service public, sans souci de rentabilité, ça n'existe plus.
Avec les MJC, Jean-François a aussi accompagné un autre lieu important de Créteil, le Festival du film de femmes. Il y a apporté son enthousiasme, sa minutie et ses savoir-faire, et il y a découvert, entre autres, une merveilleuse sororité.
On te demandait des séances ou des souvenirs de ce festival qui t'avaient marqué, donc je voudrais te reposer la question si tu en as, ou sinon, en tout cas, l'impression que te fait ce festival et pourquoi il est important pour toi.
Bon, d'abord, je l'ai découvert avant Créteil, puisqu'il s'est créé à Sceaux dans les années 70. Là, j'ai plus précisément la date en tête. Et ça a été un moment où on a découvert les réalisatrices allemandes. Et je me souviens qu'il y avait un engouement autour de ces réalisatrices et des films qu'elles faisaient, qui étaient d'un à-propos extraordinaire et sur le féminisme, pardon, et sur la société que l'on vivait. Un titre dont je me souviens, d'un film qui a... C'est pas forcément... J'ai pu le découvrir là, mais il a été distribué ensuite, qui s'appelle « Sous les pavés, la plage ». Et là, tout de suite, je m'en souviens pas plus. Je retrouverai s'il fallait. Mais... Bon, mais voilà, une première impression. Et puis après... Quand il vient à Créteil et mon intérêt pour aller proposer mes services, je vous rappelle, c'était facile pour moi d'aller proposer mes services parce que j'étais payé par le ministère Jeunesse et Sport, donc par l'État français. Donc je pouvais aller voir les organisatrices et leur dire mais, bon, j'ai un bout de savoir-faire. Je peux vous aider, je ne vous coûte rien. Bon, simplement, il faut un peu se mettre d'accord avec l'administration. Donc, Donc là, si je suis allé vers elle, et si j'ai continué pendant quelque temps à avoir cette activité avec elle, c'est qu'il y avait dans ce lieu la possibilité de rencontrer ou de découvrir, même si moi j'avais pas beaucoup de temps pour la rencontre elle-même, découvrir des réalisatrices du monde entier. Je pense que c'est ça l'image que je conserve, c'est qu'on pouvait avoir là présent des femmes qui cherchaient à faire du cinéma, y compris dans des pays où on ne savait rien du cinéma. Elles réussissaient à faire venir des réalisatrices d'une multitude de pays et il y avait des dialogues qui s'engageaient. Donc dans la salle, dans les salles, il y avait une forme de militantisme qui pouvait être à certains moments un peu agaçant, excessif, mais qu'en même temps, on pouvait comprendre parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace existant, surtout au début de ce festival, pour que ces revendications féministes puissent s'exprimer. Donc c'était un territoire où tout pouvait être dit, tout pouvait être montré. Et puis, le cinéma était quand même présent, puisque, enfin, c'est excessif ma formule, mais il était dans tous les cas présent, parce que c'était ça le prétexte pour lequel tout le monde se retrouvait. Ce n'était pas forcément le cinéma le plus abouti qu'on voyait, mais c'était... Oui, c'est ça, c'était le cinéma du monde entier. Et
un cinéma peut-être un peu plus politique dans ces cas-là.
Ah ben...
Enfin, parce que tu me dis que...
Oui, 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 oui.
Le cinéma était un peu le prétexte, c'était...
Oui, 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 oui.
Il y a un aspect assez politique.
Oui, oui, oui. Ça l'est sans doute moins aujourd'hui, mais je sais pas bien. Mais comme le reste, au sein de l'apport politique, il y avait pas de frontières. Tout pouvait être dit. Et donc, oui, j'y ai entendu Jane Birkin, j'y ai entendu Agnès Varda, j'y ai entendu Kira Muratova. Parce que, et en plus, ces réalisatrices du monde entier, c'était des femmes qui parlaient, quoi. C'est ça, il y a quelque chose de très vivant. C'est la sororité, je cherche à les dire. C'est très fraternel, non, c'est...
La sororité.
Il y a quelque chose qui se vit tout de suite. Et même nous, hommes, qui étions concernés par la vie de ce festival, on était dans cette atmosphère-là. Oui, oui. Où est-ce qu'il y avait des espaces comme ça où on se confrontait pendant 10 jours à la politique, du moins dans un espace culturel? On dira peut-être un mot du Festival des minorités nationales d'Edouard Nenet. Il y a eu des correspondances entre ces deux festivals. Où il y avait, à Douarnenez, il y avait aussi cette idée qu'on était là pour sculptiner un sujet autour d'un... Alors, ce n'était pas un pays. À l'époque, il parlait d'un peuple. C'était la notion des peuples opprimés, y compris côté français. Moi, je me souviens d'être allé à un festival consacré à l'Occitanie. Et quand il y a eu un festival du côté des pays soviétiques, c'était l'Ukraine, c'était la Géorgie, c'était là où il pouvait y avoir le désir de garder une identité contre un pouvoir centralisateur. Donc, les tout premiers festivals à Douarnenez, c'est par exemple les Indiens. C'est pas une nation, mais il y a une vraie communauté. Puis en plus, une illustration cinématographique qui pouvait être forte aussi. Là, cette année, ils avaient programmé, avant même qu'il y ait des manifestations dans les rues d'Alger, ils avaient programmé les Algéries. Donc, bon.
Et tu te souviens, dans ces festivals, peut-être même encore plus dans celui de Douarnenez, un festival où on regarde des films, mais un festival aussi où on les discute, et plutôt des discussions, des débats.
À Dordogne, il y a plus de débats que presque de projections. C'est un festival de la parole, c'est un dialogue. Et il y a des grandes tables extérieures, que ce soit pour manger, pour boire. Et puis, il y a des espaces pour, entre guillemets, travailler sur certains sujets apportés par des personnes très qualifiées. À Douarnenez, c'est évident qu'il y a aussi la langue bretonne qui est un des sujets. D'ailleurs, il y a une programmation qui est tournée aussi vers les archives du cinéma breton. Mais il se trouve qu'il y a une cinémathèque à Brest qui conserve cette histoire-là et qui est du coup très présent là. Il y a aussi une autre section qui s'est développée au fil des dernières années qui est consacrée aux malentendants du côté des sourds. Et puis aussi...
Oui, les minorités sexuelles.
Oui, aussi, oui, absolument. Oui.
C'est ce qu'on disait.
Oui, absolument.
Beau sujet.
Pour finir en beauté ce portrait géographique d'une certaine cinéphilie, Jean-François nous explique pourquoi la salle de cinéma est aussi importante pour lui. Elle incarne son amour du cinéma, et ce n'est qu'à travers elle qu'il peut la vivre, car il ne possède aucun appareil domestique, lecteur DVD, VHS, Blu-ray ou Internet, lui permettant de voir des films.
De toute manière, vous l'avez repéré, il n'y a aucun instrument ici pour voir des reproductions cinématographiques. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'écran. Donc aujourd'hui, je peux encore physiquement vivre ça. J'ai eu là pendant... Non, je ne montre rien. J'ai eu... c'est là que je devrais vous montrer. J'ai eu une tendinite. et bon, voilà, ça a été un peu un obstacle à ma cinéphilie. Mais quand même, il y a une salle de cinéma à 300 mètres d'ici qui a programmé tous les bons films de l'été. Donc j'y ai découvert le film de Desplechin, par exemple. Oui. Voilà, des choses comme ça, mais pas seulement.
Nous aimerions remercier Jean-François Camus pour s'être prêté au jeu de nos longues interviews, ainsi que Mani, qui s'accompagne, pour nous avoir ouvert la porte de sa demeure. Un grand merci à Aline Aon qui a fait le lien entre notre invité et nous, Gabriel Régnier pour ses créations musicales, ainsi qu'Anna Mandico pour ses créations graphiques.